Mesdames et messieurs, chers citoyens, citoyens des Utopiales, citoyens de la Cité des Congrès, nous avons une responsabilité importante. Nous avons aujourd'hui, pendant une petite heure, un devoir qui est sans doute le devoir le plus sacré d'un citoyen ou d'une citoyenne, juger des déviants et décider si ces déviants sont coupables ou si, au contraire, ils sont non coupables. Pour juger les déviants, nous avons réuni nos quatre meilleurs juges. Des juges dont le caractère honorable, l'honorabilité, le caractère vénérable, le caractère absolument impartial ne fait aucun doute. Ces quatre juges ici présents... Ah, il ne marche pas. Ah, try another one. Ces quatre juges ici présents vont devoir trancher avec votre aide. Avec vos interventions et les micros vont circuler et nous avons besoin de vous. Qui de l'utopie ou de la dystopie mérite d'être sauvé? Alors d'abord, je vous présente les quatre juges et puis je vous ferai un petit peu l'historique de ce débat parce que ce n'est pas la première fois que nous jugeons, ce n'est pas la première instance. Les utopiales se sont penchés sur le cas problématique de l'utopie et de la dystopie depuis longtemps. Tout à fait à votre droite, Sarah Dock, le juge vénérable Sarah Dock, que je remercie d'être ici. Juge, traductrice, autrice, puisque c'est le mot officiel, de Techno Fairies notamment, traductrice de Paolo Bassigalupi entre autres, et grande, très très grande connaisseuse de sa jurisprudence science-fictionnelle. Elle a accepté de participer à ce jury, je l'en remercie. À côté d'elle, le très vénérable juge Richard Morgan, juge spécialisé dans les traitements des affaires judiciaires autour du cyberpunk. Beaucoup de punks sont passés devant lui et certains s'en sont mordus les doigts. Ce vénérable juge, auteur de Carbone modifié et de très nombreux livres autour de la dystopie, notamment auteur aussi des mémoires de Takeshi Kovacs, l'un des responsables et l'un des spécialistes de la délinquance dans son univers, va nous aider aussi à juger la dystopie. À côté, le très vénérable juge Emma Newman, qui est un juge qui nous vient pour la première fois en cette cité des Utopiales, auteur d'une histoire de la colonisation dans Planetfall, avec une histoire de découverte d'une nouvelle planète et d'une confrontation à des artefacts extraterrestres, et en même temps un regard très différent sur ce que peut être les failles, ce que peuvent être les failles et les courages extraordinaires des colons dans une entreprise telle que la sienne. Et également auteur d'une nouvelle dans l'anthologie des Utopiales que vous ne pouvez manquer d'acheter ou, si ce n'est déjà fait, de lire. Enfin, à côté, notre très vénérable et très honorable juge Norman Spinrad. Peut-être le juge le plus connu ici aux Utopiales, dans cette cité des Utopiales, celui qui a tant de fois, avec son impartialité, trouvé des solutions là où nous n'en espérions plus. Ces quatre juges vont devoir trancher. Ils vont devoir trancher en réponse à quelques chefs d'accusation sur l'utopie et sur la dystopie. L'utopie et la dystopie sont-elles conjointement coupables de nous tromper, de nous laisser croire à des idéaux jamais inaccessibles, ou au contraire de décrire des sociétés terriblement fermées, renfermées sur elles-mêmes, closes, desquelles la lumière presque de l'espoir ne peut plus s'échapper comme si elles étaient des sociétés trous noirs. Alors j'ai préparé, bien évidemment, pour ces vénérables juges, quelques questions et je vais commencer par en poser une à laquelle je vais leur demander de répondre. Et puis, alors, répondre bien sûr à partir de leurs ouvrages, à partir de leur propre jurisprudence, puisque les ouvrages, les romans qu'ils ont écrits sont la jurisprudence des décisions qu'ils ont prises. Et puis, petit à petit, on viendra aussi en interaction avec le public. Une chose que je voudrais dire quand même, c'est que cette scène judiciaire que je vous propose n'est pas nouvelle. Elle n'a rien d'original malgré les apparences. L'utopie est sur la sellette depuis le XVIe siècle, depuis Sir Thomas More, lorsqu'il écrit l'utopie, et que chancelier d'Angleterre, il se trouve enfermé puis décapité pour l'avoir fait. Quant à la dystopie, elle-même sur la sellette, elle n'est pas nouvelle non plus. Bien avant le XXe siècle, il y avait des dystopies, et l'une des premières que l'on peut citer est notamment « L'île aux esclaves » de Marivaux, au XVIIIe siècle, qui inversait le rapport entre les servantes et les maîtres. Donc vous voyez, ce que nous avons à faire aujourd'hui est un vieux problème civilisationnel. Acceptons-nous d'avoir des idéaux ou préférons-nous tomber dans l'enfermement de la dystopie et se dire que, comme on le disait tout à l'heure avec Gérard Klein, peut-être il n'y a plus du tout d'avenir. Premier chef d'accusation, il va contre l'utopie. Premier chef d'accusation, le voici. L'utopie ne sert à rien. Elle appartient au passé. Elle doit être oubliée car elle décrit des idéaux inaccessibles et dangereux. Cette utopie, de surcroît, n'a pas de lien avec la science-fiction. Elle n'est même pas ludique. Elle n'est pas drôle. Sa lecture est ennuyeuse, triste, décalée, sans intérêt. Premier chef d'accusation, la parole est au jury, aux juges qui sont présents ici. À vous de me dire si l'utopie doit être condamnée ou pas. Qui commence? Ou y a-t-il encore la place pour l'utopie? Sarah?
Il y a toujours la place pour l'utopie. Parce qu'il y a toujours la place pour le rêve. Parce qu'il y a toujours la place pour construire, pour créer, pour avancer. Et surtout pour ne jamais baisser les bras, ne jamais laisser les choses telles qu'elles sont. Les faits avec lesquels j'ai écrit sont utopistes. Elles sont là pour transformer notre terre, notre humanité, notre monde, pour en faire le plus beau jardin qui soit, pour en faire un endroit où tous peuvent vivre en harmonie. L'utopie est toujours nécessaire.
Merci, vénérable juge Sarah Dock, en faveur de l'utopie. Juge Richard Morgan. Ou Emma Newman, peu importe. Oui, comme vous voulez. Je faisais dans l'ordre. Emma Newman. Emma. Judge Emma.
Please. That one's working. I think that one of the things that utopia serves as is a reminder of, or perhaps an example of what could be, so that in the mind of the reader they can form a comparison between what they see in their real life and what they read. And think, why is it not closer to this? Why is it this way here and not this where I'm living, what I can see now? One of the things that I have in what is, I suppose, a utopian colony in Planetfall are houses that are built with synthetic biology, which are completely environmentally sustainable. That it is all technology which is either in development now, already available, but is not used because of capitalism and because of the drive for profit. And so one of the things that I wanted to explore in Planetfall was a way to live just in terms of habitation that is better than what we have now, but is using techniques that we could use now or in the very near future. And that tension between the two of what could be and what is, I think, is critical to hold on to. Because otherwise we stop questioning, we stop asking our politicians, why isn't it like this, why can't we have this? And questioning the systems of power and the structures and hierarchies which keep things the way they are, that should change, as you say, should always change, that we should always be moving forwards, getting better, and if we don't have a place to aim towards, how can we determine whether we are still moving forwards, making things better?
Très bien. Merci au vénérable juge Emma Newman, en faveur de l'utopie également. Hein, vous le voyez, pour l'instant, l'utopie est en train de se sauver, mais on va voir ce qu'il en est avec les autres juges ici présents. Richard.
I don't think you can really... I don't know that I'm in favor of utopia. I think it's a bit like a sort of bacterial infection. We're just stuck with it. because it is inherent in human beings to dream of better things, to think that tomorrow could be better. I'm joking, of course, but it is problematic. There's no question that utopian thinking has been responsible for a colossal amount of human misery over the course of human history. I mean, if we look at the entire project of communism from the October 17 revolution in Russia onwards throughout the 20th century, I mean, that was driven by utopian ideals, ultimately, and it was a colossal failure. So, utopias are actually not shiny things. They are very, very sharp-edged tools. And they're an aspect of human nature, which I'd say I don't think we stand any chance of getting rid of. So I think we have to accustom ourselves to the fact that utopia as a way of thinking, a conceptual framework, isn't going away. It's not outmoded or useless or pointless anymore. It isn't going away because it's inherent in who we are as a species. And we're stuck with it. What we should perhaps try to do is maximize the benefit of it. And that will require us to take a more dystopian accent. That is to say that when we think in utopian modes, we have to apply the rubric of humanity in a realistic fashion, because most of the failures of utopian vision have been because these utopias are not built for humans, they're built for angels. They're built for some other species, and maybe it would work really well for some other species, but utopias don't work well for humans because it's not what we're designed for. We're not designed to live in a perfect society. We're designed to live in a very unpleasant evolutionary environment, which is hardscrabble, which will kill you in myriad different ways, and where you wouldn't expect to live much beyond the age of about 30. That's who we are. The dreaming of something better than that is what has brought us this far, and I've got to say, as a denizen of the 21st century, I can't really complain. I'm enjoying living in this period of time a lot more than any previous time that I can think of. So, we're stuck with it. It has its uses. It's certainly not out of outmoded or superannuated. Certainly still has its uses. But, handle with care, I would say.
Très bien, vous avez donc le point de vue du juge Richard Morgan, qui est plus nuancé, effectivement, moins favorable dans l'absolu à l'utopie en tant que telle, peut-être une sorte d'utopie en résidence surveillée, avec une manière, finalement, d'être utilisée sans être concrétisée. Je me tourne vers Norman Spinrad, le quatrième juge de ce jury. L'utopie, alors, faut-il la condamner comme un passé définitif?
It depends on what you mean by utopia. And it depends on what you mean by fiction. Fiction requires drama. Drama requires conflict. So a straight utopia, literally speaking, is a bore. It's boring. It's not dramatic. On the other hand, for the blue part, I don't like the idea of writing books to make people feel worse after they finish reading them. I don't see, but I've done it once in a while. And again, it depends whose utopia is whose dystopia. In the Iron Dream, if you're a Nazi, at least before the end, well, it's your utopia, but not hopefully for too many other people. But seriously, I think the utopian impulse should be the moral evolution of our species. Not to something perfect, it's not going to happen. If you think about it, maybe 200 years ago, not that much more, slavery was generally considered okay. And then we evolved to where that is a crime. In 1945, Hiroshima, the atomic bomb was used. 60 years later, the Soviet Union, which had bombs, disappeared, didn't use them. The United States lost the war in Vietnam, didn't use them. I don't think they're ever going to be used because we have evolved morally beyond that. And in certain things that I'm writing, that are, like, for instance, Greenhouse Summer, Blue Come on Orange is not my title. This is a post-climate change world where things are not by any means perfect. It's not a dystopia. It's not a utopia in one sense. But in another sense, there's a thing in there that says that even the gangsters have evolved to a moral point where, well, if they have to give up a lot of money and a lot of things so that the planet isn't destroyed, well, obviously, they've got to do it. And they do it. The same thing with the Siberians who have really gotten the best part of it because Siberia gets to be... But if we have to bring the climate down, well, if we really have to do it, we really have to do it. So I think that the utopian impulse should not be an impulse that you're going to create something perfect. You're not going to do that. But that the morality of our species, I would contend, over the past 300 or 400 years has been upward and can continue to be upward. So in that sense, it's, in a way, reality in the real world, as I say, it should be a utopia, moral utopia, inside a physical dystopia, because that's the only way things get better.
Une utopie morale à l'intérieur d'une dystopie physique. Voilà une très belle formule de notre juge Norman Spinrad. Les quatre juges se sont exprimés sur quoi faire avec l'utopie. C'est à vous maintenant, citoyens de la Cité des Congrès, avant que je parle de mon deuxième chef d'accusation. J'insiste aussi sur le juge Emmanuel Mann qui vous a dit que l'utopie, c'était aussi un rapport, d'ailleurs, le juge Spinrad l'a dit aussi, à l'environnement, à l'habitat même. C'est l'utopie au sens littéral du terme, là. L'architecture utopique, il n'y a pas que l'utopie politique, mais aussi la manière dont nous construisons notre rapport à l'environnement. Alors, citoyens, on va faire un vote à main levée. Donc, je vais demander à tous les citoyens présents de la cité des Utopiales ici de dire, êtes-vous pour la condamnation? Voulez-vous condamner l'utopie pour qu'elle disparaisse à jamais de notre culture, car elle ne sert plus à rien? Levez la main. Quelques-uns, c'est bien. Levez bien la main haut, que je vous vois, citoyens, car c'est un vote à main levée. Très bien. Qui, parmi cette auguste assemblée et en présence des quatre juges, est favorable donc à la défense et au maintien de l'utopie dans notre culture? Levez la main. Merci, citoyens. Vous venez de sauver l'utopie jusqu'à la prochaine édition des Utopiales, où un nouveau procès aura sans doute lieu. Deuxième chef d'accusation maintenant sur la dystopie. La dystopie, cette forme pervertie d'utopie, cette forme altérée d'utopie, cette démission de l'idéal. La dystopie qui vient souvent assombrir nos rapports à la réalité, qui vient nous rendre tristes, nous rendre seuls, nous rendre sans espoir. Cette dystopie-là ne devrait-elle pas être bannie comme utopie malade, finalement? C'est la question que je vais poser au juge. Et puis, mon chef d'accusation est plus précis. La dystopie est censée nous avertir. La dystopie, cher et vénérable juge, est censée nous prévenir d'une altération de notre bien-être. Or, on constate de façon très large qu'aucune dystopie littéraire n'a jamais empêché l'existence de totalitarisme ou de monde ou de société dictatoriale et aliénante. Alors, ne faudrait-il pas abandonner la dystopie, la disqualifier, la rayer de notre champ culturel, d'abord parce qu'elle nous rend triste et ensuite parce qu'elle est totalement inutile? La parole est à vous, les juges. Juge Emmanuel Mann.
I have many thoughts and feelings on this. No, we mustn't, because certainly in terms of literature, we should be free to explore all of our deepest fears. And that's what I feel dystopia does. I didn't, with After Atlas, which is the novel after Planetfall, I didn't set out to write a dystopia, but people have called it a dystopia. And all I did was spool forward logically from the point if the TTIP had gone through. Because I wrote it before Brexit and before Trump. And that was the thing I was worried about. Oh, to be just worried about the TTIP, how wonderful, what a wonderful place to be in when I wrote that. But it made a very, very scary world. And I was exploring that fear. And I don't know if I wanted other people to be afraid of it. I think there is that is a very conceited viewpoint in a way for an author to have, that I will write this and all of you people who read it will be also afraid and will stop it from happening, because one of the things I've discovered as an older woman is that there is such powerlessness in our society that, you know, I can't stop Brexit. I would if I could, but I can't. And that sense, that fear is something that we must explore, and there are different types of fears that are being explored. In some YA dystopias, it's the fear of homogenization, of everybody being put into boxes and having their lives mapped out for them, and that's a very common theme in dystopia. But I think it's really important for that age group to explore that fear when they're on the cusp of the rest of their lives, where they're being asked to make choices that will determine their careers. Very artificially, you know, we were made to think when we were 17, 18 that we had to make a decision about what to study at university and that would map the entirety of our life, but obviously that's ridiculous. So that fear of being put onto a track that you cannot leave, I think should be explored, because in exploring it we can find our own ways to cope with it and to consider it in a safe space. And also, when you were talking, I was thinking that you can't have a dystopia without somebody's utopia. In the world that I talk about in After Atlas, which is 80 years in the future, there are some people having some fabulous lives. And just because one particular person experiences it as a dystopia, it doesn't mean everybody has. Is it Gibson who said the dystopia is already here, it's just unevenly distributed? This is what we have now. I mean, you know, I also am really enjoying living in this time, but I know that the technology that I enjoy on a daily basis is cheap and readily accessible because there are other people in other parts of the world who have terrible working conditions. I don't know how to reconcile that. So that's why I think we do need to have dystopia. We need to be free to explore those fears.
Merci. Alors, Sarah, juge Sarah Doc.
Alors, d'un côté, la dystopie est extrêmement dangereuse, car elle peut devenir un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour la dictature, un mode d'emploi pour le futur. Comme parfois on a l'impression de vivre aujourd'hui dans le roman d'Orwell, 1984. De vivre un certain nombre de dystopies que nous avons lues ces dernières années. Que le cercle, par exemple, nous vivons dedans. La fabrique du doute de Paolo Bacigalupi, nous sommes en plein dedans. Et le danger, c'est ça, c'est que ça devient un mode d'emploi. Mais c'est en même temps aussi un regard sur les dérives. C'est en même temps aussi lancer l'alerte, prévenir les dérives, prévenir... Le premier lecteur de la dystopie, qui est souvent l'adolescent, énormément de dystopies récentes sont destinées à la jeunesse et sont destinées à prévenir la jeunesse contre des dérives qu'il pourrait rencontrer. Parce que quand on voit la fabrique du doute, donc les organismes, les lobbies et les avocats qui vont défendre le capitalisme, qui vont défendre la cigarette, qui vont défendre les poisons, qui vont défendre Monsanto, le passeur où le passé a disparu. Ces dystopies qui sont un refus du passé. La route de haut safran de Jasper Ford, qui est à nouveau un refus total du passé. Du passé faire totalement table rase et créer une autre société. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas exister sans notre passé. Et il est important de pouvoir prévenir ces lecteurs, surtout ces lecteurs-là, contre les dérives que nous leur préparons.
Merci. Merci beaucoup. Richard et Norman. Richard.
Oh.
Okay. No, I think dystopians are just way too much fun to give up. They're really, really cool, especially if you're a young woman, because if you look at most YA dystopia, what you'll find is that, yeah, things are kind of shitty on a societal level, but there are these two hot young guys who are desperate for you, and you have to choose between one or the other of them. That doesn't sound like such a bad way to live, does it? And then you go out and hunt for food in the forest with your bow and arrow, which could be fun as well. I mean, I like the outdoors. But no, dystopia has come on a long way. I think that's what's changed. I mean, if you look back at some of the classical dystopias like 1984, God, that book is miserable. No one's having a good time in 1984, not even the people who are running things. That's the thing. You know, the torturer, O'Brien, he's such a miserable bastard. And everybody's miserable. Everyone's having a shit time. Well, we've fixed that now. The utopias that we read now are much more fun, much more enjoyable. There's a lot of violence, a lot of rushing around, a lot of chases, escapes, and so forth. And yeah, I like that kind of fiction. In fact, I write it. So I can see no reason not to continue with this. I take the point that Norman said earlier, that in order to have good drama, you need conflict, and it's very hard to have conflict in a society that is running smoothly. You need things to be wrong. You need there to be problems. So I think, by definition, good dynamic fiction tends towards the dystopic if it's handling any kind of future. As far as the value of dystopian fiction goes, I think what it tends to do is to ask you to accept that systems of power are open to abuse. I think this is the basic truth of all dystopias, is that if you work your way right down to the bedrock, what it really is that power is being abused in this dystopian society in one way or another. It may be a racial dystopia, it may be a class dystopia, it may be some kind of genetically engineered future dystopia, but it's basically about the abuse of power. Again, going back to who we are as violent apes, abuse of power is in our genes. It's how we work as a species, as human beings. It's inherent in everything we do. All societies carry these traces. So what you could basically say about dystopias is that they're kind of like a magnifying glass placed over something that can sometimes be very hard to see. And you amp that up in order to discuss it, in order to look at it in a stronger light, if you like. That, I think, is invaluable. I think, you know, the idea that systems of governance are perfect or can be perfect, that they're not open to abuse, and more importantly, that the people who govern, whoever they are, even if they're us, that those people could also somehow operate in a perfect mode. This is clearly just so far from the truth. We would be failing in our duty as writers if we didn't interrogate that. Dystopia for me, I mean, again, like Emma, I kind of feel a lot of my books get called dystopias. I don't really feel they are. I just feel they're a snapshot of now extrapolated into the future. There's a reason for that, and that's because dystopia is truthful in a way that utopian fiction very rarely is. Because it takes hold of these basic human dynamics and says, well, look, this is how these will, if you're not careful, this is how these are always going to work out in a society. Societies tend towards oligarchy. They tend towards dominance. And you have to have systems in place to prevent that. So I think there are valuable lessons in dystopia and in dystopian fiction. I think it's a valuable form of fiction. So I would always be... I make quite good money from it as well, which is another thing I'd like you all to take into account when you decide. You don't rob me of my income, please. There's that. But it's kind of fun, because who wants to read a book written in a future where someone gets up, has a really nice day, and then goes to bed?
Depends on with who, but...
Alors, juste pour dire, je soupçonne ici, mais très légèrement, le juge Richard Morgan de partialité. Mais je suspends mon avis jusqu'à la fin. Maintenant, le juge qui a quand même traité l'affaire sur la dystopie la plus connue, Jack Baron contre l'éternité, va nous parler maintenant de la dystopie. Norman.
Well, in the so-called real world right now, we are living an entire world in a real life now that is going down the willy hole into a terrible dystopia, worse than anything I've ever written. And it's not just political power. It is the power of the media, of all media, if you look at what, I was just a judge at a short film festival, and like most of the stuff was violent and depressing. You look at what's going on in the United States, that you could, I wrote a funny story about a crazy president, but Donald Trump has trumped that. You look at what's going on in Myanmar, racial hatred. You look like what's going on in a place like Catalonia. We were recently there. Again, you have this evil tribalism being foistered, even without even intent, on the populations at large. That is a worse dystopia than an ideological dystopia like communism or something like that. This is out of control. This is out of control. And what this reflects to science fiction, we are part of the media. We are part of the evolves or devolves public consciousness. You can say this in two different major science fiction franchises. You have Star Trek, which is to go out and explore and have, and then you have a thing that calls itself Star Wars. And it's all about killing in Star Wars. And it's making it fun. And it is creating, along with the kind of thing that Donald Trump is doing. You're even seeing it in France with, in my opinion, with Macron. You're going to see, you're really seeing this. He lied. He bullshitted. He used the media the way Trump used the media, but more sophisticated. You're seeing the same damn thing in some way. I mean, Myanmar, the heroine, is now a villain. It's tribal hatred. We, as a species, did evolve as small tribes, and then into big tribes, and then into sovereign states. What is the function of a sovereign state? It's simply to fight other sovereign states. It doesn't really do anything else. The European Union was a great, I think, evolution in the political history, but not of the world. But now it's falling apart because of this kind of tribalism. Because of ISIS, Osama bin Laden, after 9/11, said, "We are going to create the great Satan, whether there is one or not, and we will destroy American democracy by doing that." And by God, the result in the end is Donald Trump. That's not the end, because it's going downhill fast, very fast. Here, democracy is falling apart because, in part, of the technology. Somebody like Trump understands this in a primitive way, that as long as you play to people's anger and fear of the other, and what is so much science fiction about, really? Some of it is about fear of the other, like Star Wars. Some of it is about the good possibilities of meeting the other, like Star Trek. But Star Wars wins. This is what is happening in so many places. And I think, as writers of science fiction or speculative fiction, where we are talking about the present evolving into possible futures, we have a certain moral responsibility not to do this stuff, not to collaborate with this thing, which is not even an ideology. It is it's a meme. It is a psychological disease, and as long as we're writing things that could ameliorate it, that's what maybe what should be doing. I'm talking about a dystopia. We have enough problem with our own dystopia. The main thing is to try and make things a little better. It's what John Kennedy said. It's better to light a little candle than to curse the darkness. And that's what we should be doing.
Merci, juge Norman Spinrad. Vous avez vu les argumentaires qui sont très différents hein, de la part d'un juge à l'autre, avec des considérations. Notamment, j'insiste sur le point du rapport de la lecture des dystopies pour les adolescents, hein, qui a été évoqué par le juge Saradoc en particulier. Et puis aussi le juge Richard Morgan qui a dit « La dystopie, c'est notre gagne-pain d'une certaine manière. Sans dystopie, nous ne pouvons plus exister en tant qu'auteur. » Et ça, c'est un élément aussi assez important. Alors, vous, citoyens et citoyennes, ou plutôt citoyennes et citoyens, de la grande cité utopiale, cette cité idéale dans laquelle nous vivons tous, il est temps maintenant de donner votre avis. Ensuite, il va falloir que les juges délibèrent pour ensuite savoir si leur voix va au maintien de l'utopie, au maintien de la dystopie, après votre vote, évidemment. Et vous aurez la possibilité, avant tout, de les aider à délibérer en posant des questions à partir de maintenant, puisque c'est ce qu'on avait prévu avec vos questions. Mais avant, j'ai besoin de votre vote, citoyen. Votre vote doit être exprimé à main levée. Ceux qui sont pour la disparition totale de la dystopie comme forme de littérature à la fois inutile et dangereuse, qui alourdit et attriste le présent, levez la main maintenant. Qui est pour la disparition de la dystopie ? J'en vois quelques-uns, très bien. Des utopistes, sans doute. Quelques-uns. Qui, à la lumière de ce qu'ont dit les juges, est pour le maintien de la dystopie dans notre champ de création culturelle ? Levez la main. Bien. Je suis rassuré de voir que les citoyens des utopiales sont pour le maintien de la dystopie. Ça montre votre grande ouverture d'esprit et votre capacité à interroger le monde grâce aux auteurs et aux créateurs de science-fiction qui sont ici en interaction avec vous. Alors à présent, il nous reste un quart d'heure avant que les juges ne délibèrent et donnent, car je vais leur demander de dire fermement, après toute leur argumentation, oui ou non, c'est important, puisque c'est comme ça qu'on établit une décision. La parole est aux citoyennes et aux citoyens. Posez-leur des questions de manière à les aider à préciser leur argumentation. Questions sur la dystopie, questions sur l'utopie, allez-y, c'est à vous. Qui pose une question ? Quel citoyen ? Oui, une citoyenne ici. Le micro va vous arriver, je pense. Sinon, je vais vous l'amener. Non, bah, je vais vous l'amener, alors. Je pense qu'il va marcher jusque-là. Hein. Oui ? Oui ? Parfait.
Bonjour. En matière dystopique, si vous regardez le monde aujourd'hui, c'est une question pour les juges. Est-ce qu'ils sont plus 1984 d'Orwell ou le meilleur des mondes d'Huxley ? New Brave World ou 1984 ?
Merci, citoyenne.
Je répondrai un bonheur insoutenable d'Ira Levin.
Très bien.
Yeah, of the two, Brave New World definitely suit me better, I think. I like recreational chemicals. I think.
Do you mean what we think is happening now around us? Do we think... which is more what we would personally prefer. What we would personally prefer?
What, yes.
Sorry, I can't hear you. I still can't hear you.
I think it
was. So what you personally prefer. Definitely yes. Brave. I mean, they're both awful, but... Yeah, it has to be Brave New World, because 1984 is... It's so miserable, and I hate spoilers, but it's been out a long time, so... the fact that there is no hope. It's the destruction of hope in 1984, which I find unbearable. And whilst I consider myself to be a realist rather than an optimist, I don't think I can live in a world without even a tiny bit of hope. So, Brave New World.
Well, actually, my question was if when you look at the world today, you see more A New Brave World or 1984?
I see more 1984 now.
Mm. Yes, that's a problem.
Yeah, which is really awful, considering what I'm just saying, because we're living in it. Yeah. is there still hope? I don't know. I think one of the things that I find frustrating in dystopia, and I include my own novels in this, is that there is, I think because it doesn't exist, there is no solution presented, at least no realistic solution. Obviously, in YA dystopian fiction, we all laugh and say, oh, it's just a love triangle, and you just have to have one special young woman. But goddammit, I'm willing to fight for that, because young women need to feel special when the world is against them. So the thing that is frustrating is how do we combat this? And what I would like to see, and what I would dearly love to write, is how we solve living in 1984. And I just don't know how we do that. We have to rely on so many people thinking for others and not thinking of their own profit. And I am not convinced that we are able to do that in large enough numbers yet. I'm going to go and cry now.
No.
Well, we have to create hope. Nous devons créer nous-mêmes notre propre espoir.
Juste Sarah Dock a dégagé en touche tout à l'heure. Elle a dit un bonheur insoutenable. Très, très bonne référence. Très belle jurisprudence. Mais malgré tout, je repose la question posée par la citoyenne, car les questions des citoyennes et des citoyens sont impératives pour les juges que vous êtes. Brave New World or 1984?
If you're asking me which one we're living in, it's an uneasy mix because I see both. The most potent dystopia that I've read that sort of gets where we are, I think isn't either of those. It's Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Because what Fahrenheit 451 does is it says, look, this will not be a dystopia imposed from above. This will be a dystopia that the masses choose for themselves. Books disappear because people choose not to read them anymore. And then the systems of governance come in afterwards and set things up so that continues. But that's one of the things about Fahrenheit 451. I mean, I look at around today, we have our seashell radios, except they're not radios, they're iPods. We have these beautiful cars the whole idea of a sort of a designer lifestyle that will distract you from the reality of what is going on in the world. Very, very prescient vision on Bradbury's part. The idea that you would just shut it all away, that you would find, you'd plug your ears, you'd sit in a room with where every wall is a TV, you would absorb, box sets of Netflix and HBO and stuff like that to stop you from thinking about what's really going on out in the world. I think he nailed it. I really think he did. I think if any book was ever ripe for a remake of that movie, it's Fahrenheit 451, because I think I still have yet to read any dystopian novel of any sort that was so effectively understanding of the human animal and how we end up in these positions. I think it's a brilliant book. It is also, interestingly, one that always, there is a self-renewing hope in it, because what it says is that since this is something that's actually not enforced by evil men from above, it's generated by ourselves, we also have the option at every point to say no, to refuse. And that option is a millionfold, because it's every citizen who has the chance. So the seeds of hope are also in Fahrenheit 451, which I think it makes it even closer to a perfect dystopian novel. I think that beats both Orwell and Huxley in terms of a prescient vision.
Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour Fahrenheit 451. D'autant, enfin, surtout avec la dématérialisation qu'on est en train de voir et les attaques que ça crée aussi contre la création. Et je voulais juste raconter une toute petite histoire. Un jour, un auteur m'a demandé quel livre je conserverais si on devait tous les détruire. Et j'ai répondu Fahrenheit 451 parce qu'il porte la mémoire de tous les autres.
Oui, parce que les hommes deviennent des livres dans Fahrenheit 451. Norman Finra, Brave New World or 1984?
Wow, 1980.
Today.
That's a tough question. I agree that Fahrenheit 451 really nailed it. But I started writing a novel, which I haven't finished, about this kind of future. It starts with this kind of future. It's called Nowhere Land, and it goes from this kind of future. I started writing this thing about a year ago, and then I'm looking at the news and stuff, and I say, boy, the dystopia that I created there has certainly been surpassed by what's in the newspapers. Not that anybody believes what's in the newspapers, Yeah, Bradbury nailed it there, but the current technology has made it 1,000 times worse. As far as what's been written, I got to agree with Fahrenheit 451, but not to remake that dreadful movie, which was really a disaster. And in a kind of way, a disaster that's even part of the dystopian thing, because by making that crummy movie, simplifying it, they sort of, which more people saw than ever read the book, even though it was a lousy movie, it sort of weakened the impact of the book itself, and by itself was a dystopian occurrence.
Très bien, citoyenne, vous avez votre réponse, 1984, mais aussi, enfin, année 451, mais aussi Ira Levin, un bonheur insoutenable. Une autre question de citoyen ou citoyenne, oui?
Bonjour.
Bonjour.
En fait, je trouve ça un peu limitatif de dire que, enfin, on est ici aux Utopiales, on est tous des lecteurs, on est tous aussi des gens qui regardons, qui allons au cinéma, qui regardons pas forcément des films qui nous rendent tous débiles. Et je trouve que c'est un peu limitatif de dire que maintenant on vit dans Fahrenheit 451 parce que on a effectivement du cinéma qui est intéressant, qui discute aussi de ces questions de société, d'utopie, de dystopie. C'est pas que dans les livres. Donc je pense que c'est intéressant de pas limiter ça et de se poser en juge et de dire que les gens sont bêtes et que les gens ne lisent plus alors que c'est pas forcément la réalité. Et d'autre part, je voulais aussi dire que c'est intéressant de discuter de utopie versus dystopie. Moi, je pense surtout qu'on a besoin des deux en même temps, et pas juste de dire il en faut plus l'un que l'autre, mais vraiment la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre côté pour pouvoir justement essayer de se placer entre les deux. Voilà.
Très bien, citoyenne, merci pour cette précision. Bien sûr, utopie, dystopie ne se limite pas à la littérature, évidemment, il y a aussi le cinéma, notamment le cinéma qui est très aujourd'hui branché sur les dystopies, Hunger Games et d'autres éléments. Les jeux vidéo aussi que vous n'avez pas cités, la bande dessinée, vous avez tout à fait raison. Intervention extrêmement pertinente.
Ou la télévision avec des séries comme Black Mirror.
Bien sûr,
par exemple.
Bien sûr, Black Mirror, tout à fait. Alors, 13h52 à la montre des Utopiales, la montre qui ne faillit jamais. Alors, je pense que je vais prendre une dernière question, puis nous laisserons les juges délibérer 3 minutes, et j'aurai besoin d'une seule réponse pour vous, en tant que 4 juges, sur utopie et dystopie. Une dernière question, une troisième et dernière question. Oui, allez-y, citoyen.
Bonjour. Je voulais juste savoir si vous étiez d'accord pour, de comparer l'utopie à de l'eau plate et la dystopie à une boisson gazeuse un peu pétillante, ce qui fait tout son charme, en fait, à la dystopie. Je rejoins Richard Morgan.
Alors, le juge Morgan est demandé directement, puisqu'il est interpellé par le citoyen.
It's an interesting metaphor, yeah. Yeah, I like both, you know.
OK. D'autres interventions des juges? Bon.
Je crois que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et que l'utopie et la dystopie se nourrissent l'une de l'autre.
Très bien. C'était mon troisième chef d'accusation, en fait. On n'a pas le temps de le faire, mais c'était cette question est-elle sans fondement, finalement? A-t-on besoin, comme vous l'avez dit, citoyenne, de choisir entre les deux? Alors, je vais donner quelques minutes aux juges pour délibérer entre eux. Je veux une seule réponse sur les deux questions que je vous ai posées, une réponse collective, tous les quatre. Donc, je vous laisse délibérer. Pendant qu'ils discutent, je vous rappelle que la jurisprudence de ces 4 juges vénérables et honorables est disponible à la librairie des Utopiales. Vous pouvez lire l'affaire célèbre Techno Fairies du juge Saradoc, la célèbre affaire Jack Baron contre l'éternité du juge Norman Swinrad. Vous pouvez lire l'affaire concernant une planète entière, Planet Fall de Emma Newman, et l'affaire de Takeshi Kovacs dans Carbone Modifié et ses suites du juge Richard Morgan. La publication de ces jurisprudences est importante pour les citoyennes et les citoyens que vous êtes, car elle vous permet de mesurer la qualité de l'argumentation des juges que vous avez élus pour prendre des décisions qui vont dans l'intérêt collectif de cette communauté que nous formons ici aux Utopiales. Chers citoyens et chères citoyennes, n'oubliez pas, les juges sont vos porte-parole, mais ils ne sont pas vos maîtres. Hein. Est-ce que la délibération est faite? Bien, alors je vous demande de vous lever. Qui va porter la parole du jury? Ce sera le juge Saradoc ou... Oui, Saradoc. Alors, à la question, faut-il condamner l'utopie comme inutile et passéiste? La réponse est...
Non.
Non. Très bien. À la question, faut-il condamner la dystopie comme dangereuse et inutile? La réponse est...
Non.
Très bien.
Parce que c'est un équilibre, parce qu'ils se nourrissent l'un de l'autre, que l'un ne peut exister sans l'autre, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice de l'autre.
Je vous remercie pour la clarté de cette décision judiciaire, mesdames et messieurs, nous pouvons les applaudir. Bravo.
Emma. I had a thought about the fizzy water and the still water, that I believe that it's actually the gas that is the dystopia. It's that's the thing, that the water is kind of the level, and then if you add the gas, then you have the dystopia, that they're the same thing, but you have to have one which is more dynamic than the other state.
Well, I got to say something that just dawned on me, which is that I wrote an out-and-out utopia, a complete utopia, where everything is correct, there's no government, this is Child of Fortune. But there is a story there, because you can write. So I wasn't setting out per se to write an ideological utopia, but it was 3,000 years in the future where all the crap has been solved, but people still have their individual lives within that. They still have their romances and their failures of love. They still have all sorts of personal things within a so-called, within a perfect society. Because there can't be a perfect society in that way, because individual people have their individual stories. And so the only way you can really tell an out-and-out utopia is not by concentrating on the politics of it, but on the lives of the people living within it.
Eh bien, encore une fois, donc merci à vous, merci citoyens et citoyennes des Utopiales. Je vous rappelle que cette décision, il est possible d'en faire appel et que le président des Utopiales a un pouvoir illimité de cassation. On espère qu'il ne le fera pas jouer cette fois et que le procès sera donc renvoyé une nouvelle fois. À l'année prochaine, merci à vous.